à la bonne heure.
Vivo per lei da quando sai.
Jusqu'à 20h.
La prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo.
Verso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei.
Pas, c'est la version originale, mais c'est pas la version avec Hélène Segarra, hein? Vivo Perlé, Andrea Bocelli sur les ondes de la marge. Toujours plus de hits. Bonsoir, bonjour. Ben, là, il va falloir que je dise bonjour. Là, fait soleil. Là, dans pas long, je vais avoir le soleil de la fenêtre qui va refléter dans mon visage. Là, je vais être obligé d'aller chercher une boîte de carton comme à chaque année. Ça fait plus de 10 ans que je me dis, là, faudrait que je me gosse de quoi qui va faire que la fenêtre sera protégée du soleil et qu'on n'ait pas le soleil en face. Ben, à chaque année, elle le fait pas. Oui, beaucoup de choses. Là, c'est moi qui pars 15 parenthèses comme d'habitude. Mais on va toutes les fermer. Vivo Perlé, oui, Andrea Bocelli. Parce qu'aujourd'hui, je regardais en fait un spectacle à venir samedi. Je vais vous en parler dans quelques instants, que je vais sûrement pas aller. Mais aujourd'hui, j'avais le FOMO parce que j'étais allé voir le setlist du show de leur tournée. J'étais comme, ah, OK, c'est pas juste leur dernier album que est passé dans le beurre, comme l'autre d'avant, comme, tu sais, c'est plus un spectacle greatest hits, c'est le jour de ma fête, ok, c'est la place belle, mais tu sais, peut-être que, je sais pas, peut-être que, finalement, j'irai sûrement pas. Mais en allant voir, justement, le prix des billets puis tout ça, j'ai vu que Andrea Bocelli sera en spectacle le 11 avril, si ça vous tente, au Centre Bell, à Montréal. C'est pour ça que j'ai eu Dès l'annonce de ce spectacle-là à venir cette semaine, je me suis dit, bon, m'en faire jouer du Andrea Bocelli. Pourquoi pas? Aujourd'hui à l'émission, je vais vous faire jouer de la musique, peut-être plus qu'à l'habitude, parce que là, ça fait une couple de semaines que l'actualité me rase, j'ai quand même un manque d'intérêt. Le mois de mars, pour moi, ça a été un peu étrange, là, pour être honnête. Fait que, c'est ça. Je suis moins l'actualité parce que c'est tu sais, comme là, cette semaine, là, vous allez voir, il va y avoir tellement de chroniqueurs et de chroniqueuses qui vont être rendus des experts en temps d'écran pour les enfants. Tu sais, je lis certaines personnes, je suis comme, mais qui c'est que vous connaissez là-dedans, vous basez, tu sais, puis là, ça cède pas de source. Les vrais analystes, les vrais chroniqueurs et chroniqueuses vont avoir des sources, tu sais, vont avoir des notes de bas de page, même chez certaines personnes, puis d'autres, tu sais, on dirait que ça sort juste de leur vécu. Voici mon expérience, voici ma chronique, j'ai fait mes mots, mon nombre de mots, puis on se revoit la semaine prochaine. Ou dans 2 jours, ou dans 3 jours, sur l'autre sujet de l'heure. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'étais encore en train d'analyser, puis mon opinion, je veux dire, elle se base sur pas grand-chose. Là, moi, je lis à droite, à gauche, l'espace, langue de l'espace public au Québec en 2022, l'Office québécois de la langue française. Puis on a tous nos biais. Moi, je voyais ça aller, puis j'étais comme, bon, ben c'est stable par rapport à 2007. Fait que mon biais de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui exagèrent, qui sont, c'est souvent dans le Journal de Montréal, par rapport à la crainte de la perte du français. Puis là, toutes ces nuances-là avec la langue parlée à la maison versus la langue au travail versus la langue dans laquelle on peut s'exprimer. Mais tu sais, plus je lisais là-dessus, après ça, je lisais des interrogations qui étaient parfaitement louables par rapport à cette enquête-là qui dit, ouais, mais c'est pas la même méthodologie que la dernière fois. Le nombre de non-répondants est passé, je pense, de plus de 50% à plus de comme 75%, je pense, de mémoire. Là, j'y vais de mémoire. Je pense que c'est même 77-76% de non-répondants. Ça commence à faire beaucoup de personnes qui ne veulent pas répondre à ce sondage de l'OQLF. Ce qui fait que ça amène un biais biais aussi dans les statistiques. Fait que là, on est d'un côté soit des anecdotes de « je suis allé au Carrefour Laval une fois pendant une fin de semaine, j'ai entendu du monde parler en anglais, Laval s'anglicise, le Québec s'anglicise », versus d'autres enquêtes qui ont l'air plus sérieuses. Mais même ça, on leur biais. Je veux dire, cette enquête-là, vous n'avez pas beaucoup entendu parler dans le Journal de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs qui ont parlé de cette enquête-là. Parce que selon leur biais à eux, ben, ça fonctionnait pas vraiment avec leur narratif, je devrais dire. Puis, ils ont sorti un article, le Journal de Montréal, là-dessus. Mais c'était par rapport à... Attendez, je vais vous ressortir ça. Ouais, la presse qui nous dit l'usage du français dans l'espace public est stable. Palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec. Puis là, le Journal de Montréal a dit, bon, ça va être quoi notre angle pour dire que cette étude-là fait en sorte que ça suit notre narratif à nous, que le français s'effrite à Montréal, au Québec, puis c'est dangereux, puis dans une couple d'années, on parlera plus français. Plus de 14,4% des Québécois commandent leur repas in English. Cette proportion flirte avec les 22% dans la grande région de Montréal. Donc, article de Francis Alain. Donc, eux, ils ont pris l'angle des commandes pour emporter pour... Parce que l'autre angle, si on se base juste sur cette étude-là, dit que ça stabilise le français, puis c'est la même chose qu'en 2007, ça faisait peut-être pas un bon titre. Fait que là, ils ont choisi les commandes pour emporter. Ça m'a fait sourire. Fait que c'est ça, on a tous nos billets. Moi, je suis encore en train de lire là-dessus, puis mon opinion est pas encore faite. Comme je vous dis, je vais voir à droite, à gauche, que des gens pensent là-dessus, des gens sérieux aussi sur ces enjeux-là, des enjeux qui sont complexes, qu'on ne peut pas mettre en boîte en quelques jours à peine, ou le jour même, ça sort, puis le lendemain, la chronique est déjà écrite. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, je vous parlerai pas de temps d'écran avec des jeunes parce que pour vrai, je connais fuck-all là-dedans à part ma propre expérience. Puis ça reste que ma propre expérience. Tu sais, partir du particulier pour se rendre au général, où on a appris ça en philosophie. Mais j'ai l'impression que c'est juste ça qu'on nous gave parce que ça coûte pas cher. Tu sais, engager quelqu'un qui a des opinions, ça coûte pas cher à mettre en ligne, ça coûte pas cher à mettre à la télévision. Mais ça reste que tu sais là, il y a Zone Info de plus en plus. Les panélistes de Zone Info sont les mêmes qu'aux débatteurs. Qui là, les débatteurs à nouveau. J'en ai pas parlé, je pense, encore de ça, hein, mais il y avait un bulletin de nouvelles à nouveau, tu sais, la fin de semaine, qui ont coupé à 5h, puis à 22h. Puis là, celui de 22h, le bulletin a sauté il y a quelques semaines. Puis là, c'est comme les débatteurs du 22h. Fait que là, ils font jouer les reportages, les topos que les journalistes de nouveau ont concoctés pour le bulletin de 17h. Et là, entre les reportages, on a les débatteurs qui d'habitude sont là à 22h30 pour débattre d'un sujet X, Y, Z, débattent des nouvelles. C'est d'après moi, ils se disent, gars, on fait pas le poids avec le TVA 22h, avec le téléjournal 22h. Fait qu'on va juste faire à ma manière, comme le chante Roxane Bruno. Mais là, c'est le summum de l'opinion. Là, tu dis, tu te remplaces un bulletin de nouvelles par, on va mettre 4 personnes autour d'une table. En fait, 5 avec l'animateur. Des fois, sont 3 parce qu'il y a une personne qui est peut-être à Québec ou à Ottawa et peut-être ailleurs. Donc, elle est à la télévision. Sur un écran, tu sais, est en duplex. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Duplex, je pense, parce qu'il y a 2 personnes. Fait que, si tout le monde est là, il y a un terme en télévision, mais moi, je fais pas de télévision, je fais de la radio. Mais, c'est ça. Ça, c'est le summum du, on remplace un bulletin de nouvelles par, hey, vous venez de voir le reportage, avez-vous une opinion là-dessus, puis t'es comme, j'ai-tu vraiment le goût d'entendre François Lambert encore une fois donner ses opinions? Fait que, ça va bien les médias, mais tu sais, on veut pas payer. On va ouvrir une fenêtre privée pour dépasser les 3 articles de plus gratuits du Devoir si on n'est pas abonné. Même chose si on va sur le site de l'actualité, la presse. Mais là, on va se connecter. Journal de Montréal de plus en plus. Là, faut donner certains renseignements pour avoir accès à certains articles où il y a une petite clé. Sinon, ben c'est pour les membres seulement. J'ai l'actualité. C'est drôle. Puis ma copine est partie cette semaine. Puis là, dans la boîte aux lettres, on a reçu l'actualité. Mais ma copine est abonnée à l'actualité. Ma copine, elle lit beaucoup. Pour vrai, c'est une femme qui est brillante, qui prend le temps de lire, de s'informer. C'est que ça fait également partie de son travail. Puis là, quand j'ai vu ça, le palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec, ça m'a fait rire la version... J'ai vu un peu le palmarès, je l'ai feuilleté là, la version numérique, mais la version papier est encore plus drôle, tu sais. Comme Jean-Philippe Cipriani l'a dit à l'émission Tout peut arriver, il dit, tu sais, c'est pas le palmarès qu'on voudrait, c'est celui qu'on mérite ou c'est pas celui qu'on mérite, celui qu'on... Dans le sens que plusieurs commentaires de il y a pas assez de femmes, il y a pas assez d'influenceurs qui influencent la société de d'autres manières que les gens qu'on voit tout le temps dans notre télévision ou qu'on lit dans nos journaux ou qui sont en situation de pouvoir parce qu'ils sont dans une société d'État, qui sont au gouvernement. Puis Cipriani de dire, puis il y a très raison, ça c'est parce que ce palmarès là c'est la réalité. S'il y a pas assez de femmes dans ce palmarès-là, c'est parce que c'est un reflet de la réalité. Puis là, la couverture, c'est pas un angle, je trouve, flatteur pour Monsieur Arcand, Paul Arcand de son prénom. Je sais pas, la caméra la trouve basse un peu, elle est mieux un petit peu plus haut. En tout cas, je suis pas sûr de la couverture, mais c'est vraiment drôle quand on ouvre ça, tu sais, parce qu'ils sont cotés sur le pouvoir de l'institution, le charisme et la personnalité et la volonté de changer les choses. Puis c'est ça, charisme, ça me fait rire, tu sais. Ce sont des atouts intangibles et puissants qui permettent d'influencer son prochain. Par exemple, un leader naturel comme Laurent Duvernay-Tardif, une communicatrice jouissant d'une cote d'amour indéfectible, comme Véronique Cloutier, trouveront facilement une audience. Mais tu sais, quand t'es coté comme deux pour ce qui est du charisme, ça doit faire mal à l'ego, je sais pas, tu sais. Comme Charles Lémont, à la 15e position, est coté 2, point de vue charisme et personnalité. Puis, je sais pas, il est coté combien pour magie, par exemple. Mais c'est ça, je regarde ça, tu sais, champ d'influence. Bon, il devait être une personne qui sont en politique, en culture, puis tout ça. Ces palmarès-là me rappellent drôlement le palmarès du Rolling Stone. Vous savez, quand ils font les 500 meilleurs albums à vie, puis par le passé, il y avait plusieurs biais qui tentent à corriger, c'est-à-dire, ben, tu sais, c'est pas juste des hommes blancs qui ont fait du rock'n'roll qui sont dans les meilleurs albums, c'est très occidentaux centriste, il y a de la musique qui s'est faite à travers le monde aussi, dont ce magazine-là ne se battrait pas de mettre, tu même les gens qui étaient à la tête de Rolling Stone, on l'a appris il y a quelques années, t'es comme, non, nous autres, le rock, c'est des hommes blancs, puis les autres, on veut rien savoir. Mais ultimement, ces palmarès-là font jaser aussi. Puis c'est ça le but. T'sais. L'actualité, pourquoi ils font un palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec à ce temps-ci de l'année? Est-ce que c'est en lien aussi avec le fait qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir s'abonner à l'actualité ou qui vont faire le renouvellement? Ça se peut que ça soit juste ça aussi. Hein? Puis des fois, faut pas chercher plus loin. C'est la même chose avec le palmarès des écoles à l'époque. Ce palmarès-là cherche à faire jaser. Et c'est ça. Si vous abonnez à l'actualité, je sais pas pourquoi, mais je connais plusieurs personnes qui se sont abonnées à l'actualité. Puis après ça, pour une raison X, Y, Z, reçoivent par la poste tout le temps. Puis nous, à la maison, on le reçoit. Pour vrai, c'est une blague. Là, à chaque mois, je reçois une lettre que je donne à ma blonde, je la laisse sur le lit. Puis je dis, hey, tiens, il y a encore un organisme de charité ou de bienfaisance qui veut avoir tes bidous. Puis elle dit, mais j'ai jamais donné mon adresse à ces gens-là. Où est-ce qu'ils prennent ça? Là, elle fait un recoupement avec d'autres personnes, d'autres collègues également, qui eux aussi étaient abonnés à l'actualité. Puis, je sais pas, il y a des gens, ça a l'air, qui disent que ça se peut que certaines entreprises qui ont vos données vendent ces données-là à d'autres organismes qui, par la suite, vous envoient des trucs par la poste. Fait que c'est ça. Pour moi, ces palmarès-là, honnêtement, c'est ça. Là, parce que j'avais pas besoin de l'actualité pour savoir que François Legault est la personne la plus influente au Québec. Je dirais bien, c'est le premier ministre du Québec, tu sais. Puis en 2018, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ben le PDG d'Hydro-Québec, oui, c'était pas Michael Sebia, c'était l'autre personne. Je me rappelle plus son nom, malheureusement. Mais il était, je pense, en quatrième position de mémoire. Mais tu sais, tu regardes ça. C'est des gens qui ont des tribunes, c'est des gens qui sont en situation de pouvoir. Puis, ben, ultimement, les gens qui sont en situation de pouvoir, qui ont des tribunes importantes, ben, vont être influentes parce qu'ils ont le beau jeu, parce qu'ils se font entendre, ils se font écouter. That's it, that's all. Comme je le disais tantôt, j'avais le FOMO en après-midi parce que le 13 avril prochain, samedi, à la Place Belle, il y aura Queens of the Stone Age. Dernière fois, j'ai vu Queens of the Stone Age. En fait, j'ai vu le groupe deux fois en spectacle. La première fois, c'était en première partie. Il y avait trois groupes. C'était au Centre Bell. T'avais Dead from Above, 1979, Queens of the Stone Age, puis Nine Inch Nails. Tu dis juste ces trois groupes-là, tu dis le show devait être malade. Effectivement, c'était le fun, mais Dead from Above avait très peu de temps pour jouer. Queens of the Stone Age aussi, mais ils ont voulu jouer le plus de chansons possible, fait qu'ils ont joué plus rapidement qu'à l'habitude. Fait qu'on était comme, je comprends pas, qu'est-ce qu'ils jouent, je reconnais pas la chanson. Il a joué trop vite, je trouve ça bizarre. Puis le show de Nine Inch Nails était vraiment bon. Il a fallu que j'attende 2014. J'ai vu Damn Crooked Vultures également. Je me rappelle jamais si c'était au Club Soda ou Metropolis, mais je me rappelle qu'il y avait des télés. Je pense que c'était au Metropolis, de mémoire. Puis il y avait une game de hockey, là. Vite comme ça, je pense que c'était les Pingouins canadiens. Mais en tout cas, ils ont retardé le match. En fait, ils ont retardé le show de Damn Crooked Vultures pour faire jouer la fin du match de Canadiens-Pingouins, je crois, dans les téléviseurs. Finalement, Canadiens gagnent. gang, tout le monde est content, le show commence, puis c'était vraiment un bon spectacle. Et la dernière fois que j'ai vu Queens of the Stone Age en spectacle, c'était en 2014. C'était pas à Montréal, c'était à Coachella. C'est la seule année que j'avais été à Coachella. À l'époque, Outkast annonçait qu'ils allaient à Coachella, puis une amie et moi, on disait, hey, on achète nos billets, on va à Coachella, on va faire ça une fois dans notre vie. Puis on est allé à San Francisco. Je vous parle de ça il y a 10 ans, là. Il y a 10 ans, il y avait également... Tu sais, moi, je vais dans tous les sens aujourd'hui, mais j'étais en train de souper en revenant. Il faut vraiment que je parle de ça. Mais quand on était à Coachella, c'est ça. Il y avait Arcade Fire, il y avait Outkast, il y avait Muse, c'était les têtes d'affiche. Plusieurs autres groupes. Là, on a vu Lana Del Rey, Pharrell Williams, on a vu Beck. On a vu Queens of the Stone Age également. Puis après ça, on a été... moi, j'étais passé quelques jours seul à San Francisco. Puis elle, son copain est venu la rejoindre. Puis ils étaient également à San Francisco. On était dans deux hostels différents. Auberge de jeunesse, par où on s'est rencontrés pour un pop crawl. Puis, pendant le pop crawl, moi, je montrais ma pièce d'identité, ma carte d'assurance maladie, puis j'ai pas de permis de conduire, pour rentrer. Puis, un des doormen me dit, « Oh, you're from Quebec! » Je dis, « Ouais. » Puis là, il me dit une affaire comme, « Ah oui, vous venez de voter pour le référendum, la séparation du Québec. » Je suis comme, « Hein? » Que de quoi? 95? Non, vous venez de faire ça. Non, c'est une élection provinciale. Puis ça m'a vraiment fait rire parce que, vous rappelez-vous, 2014, Parti québécois minoritaire lance une élection, voguait sûrement vers une élection majoritaire. PKP arrive, le point dans les airs, puis le Parti libéral du Québec a pu, tout le long de la campagne, dire « Ben, c'est ça! Si vous votez pour le PQ, c'est un référendum. Fait que voulez-vous un référendum ou vous voulez ensemble les vraies affaires de je sais pas quoi? » Puis, Philippe Couillard a été élu. Ça, c'est il y a 10 ans, là. C'était dimanche, les 10 ans de Philippe Couillard. C'est un pauvre Philippe Couillard. Il a passé dans le beurre, là. Je sais pas si c'était à cause de l'éclipse ou à cause d'autres choses. Mais il y a personne qui a souligné le 10e anniversaire de l'élection du Parti libéral du Québec et Philippe Couillard à sa tête, qui est devenu premier ministre du Québec le temps d'un mandat. J'ai vu aucune mention de ça. Là, je me suis senti mal un peu pour Philippe Couillard. Je suis comme, pauvre monsieur Couillard, il passe encore dans le beurre. Mais c'est ça. Il a fallu que je me rende en San Francisco une semaine plus tard pour que quelqu'un me dise, c'était pas un référendum parce que dans ce temps-là, le PLQ tapait sur le clou de le PQ, c'est un référendum, puis ça a l'air que ça s'est rendu jusqu'à San Francisco. Mais comme je le disais souvent, Philippe Couillard avait cette magnifique ligne qu'il avait dit à un moment donné dans un point de presse que j'ai trouvé très jolie.
Une idée ne meurt jamais. Il faut pas que les idées meurent.
Une idée ne meurt jamais, il ne faut pas que les idées meurent, mais eux, tu sais, c'est plutôt dire l'idée du référendum et de la souveraineté ou de l'indépendance du Québec, faut pas que ça meure, parce que si jamais la souveraineté meurt, ben là, le fonds de commerce du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire faire peur aux Québécois de dire, ben nous, on est l'autre option. La souveraineté, ça peut faire peur, mais nous, on est le fédéralisme. Ben c'est ça, si l'idée de la souveraineté tombe, il va rester quoi? Il va rester la CAQ, puis il va rester le PLQ dans l'opposition qui boude, parce qu'ils disent, ben là, ils nous volent nos meilleurs ligne. Fait que c'est ça qui est ça. Je pensais à ça. Et Queens of Stone Age, c'est ça. Je les ai vus en 2014. Le samedi, ils sont à la Place Belle. Je suis allé voir justement les chansons qui jouent pendant leur tournée. Parce que moi, pour vrai, Queens of Stone Age, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Quand je suis arrivé ici à CSM en 2006, j'en faisais jouer quand même assez souvent. Puis en 2007, est sorti l'album Era Vulgaris. Puis que ce soit pour les Desert Sessions, même Caius avant ça, Just Show Me, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis Era Vulgaris, puis Lullabies to Paralyze avant ça, Songs from the Deaf, c'est génie, Rated R, puis l'album homonyme en 98. Mais après ça, tu sais, Like Clockwork en 2013, il y avait comme ma chanson préférée, c'était celle avec Elton John puis Trent Reznor. C'est bizarre à dire, mais c'est ma chanson préférée de cet album-là. Le reste, je me rappelle plus grand-chose. Villains, je pense qu'il y a une ou deux bonnes tunes. Le reste m'a laissé de glace. Puis l'album de 2023, de l'année dernière, In Times New Roman, 3 petits points. Ça aussi, j'ai pas été vraiment impressionné. Fait que je suis pas amer. Tu sais, on pourrait être fâché de dire, ah, oh, un groupe que j'aime beaucoup fait des albums que je n'aime plus, je me sens pas reconnu, puis ainsi de suite. Non, tu sais, j'ai quand même 5 albums au moins à mettre sous la dent quand je veux écouter du Queens of the Stone Age. Fait que ça me dérange pas. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, puis tu sais, ils essaient d'autres sons. C'est pas comme un groupe qui veut refaire Songs from the Deaf à nauseam, puis refaire tout le temps le même album. Fait que je trouve ça le fun. C'est pour ça que j'avais pas acheté de billets pour la Place Belle. Mais là, en voyant cette liste aujourd'hui, je me dis, j'y vais-tu ou j'y vais pas? Mais c'est genre 100 piastres pour être sur le parterre. Fait. m'en aller regarder des vidéos YouTube à part de ça. Mais j'ai le goût de me faire plaisir, parce que c'est comme ça, la vie, des fois, on peut se faire plaisir. Tiré de leur album Era Vulgaris, paru en 2007, on va entendre la pièce Running Joke de Queens of Stone Age. Par la suite, ça va être Fudge et du EP Fruit Dieu, la pièce Lave mes péchés sur les ondes de la marge. Toujours plus de hits. Bonne émission.
La vignée, la vignée, la vignée.
Light, Fudge, tiré du EP Fruit Dieu. La chanson Lave mes péchés. Avant ça, c'était Queens of the Stone Age, Running Joke de l'album Era Vulgaris, qui seront en spectacle samedi à la Place Belle. La Place, c'est Laval. Centre, c'est Montréal. C'est le truc pour s'en rappeler. Et puis, est-ce que j'y serai? Pense pas, mais ceux qui y seront, je vous souhaite un vraiment bon spectacle parce que, malgré tout, c'est un band qui rock, qui est tight. Josh Homme n'a pas perdu grand-chose de sa voix. Et puis, ils ont des bonnes chansons. Même si j'aime pas vraiment leurs deux, trois derniers albums, ils font surtout des vieilles tunes en show. Fait que, pour ceux qui les ont jamais vus en spectacle, je pense que c'est le moment parce que ça fait 10 ans qu'ils sont pas venus à Montréal. Puis là, Laval, c'est pas Montréal, bien sûr, mais vous comprenez, ça fait 10 ans qu'ils sont pas venus au moins au Québec. Ils seront, je pense, à Québec. Faudrait que je revérifie. Je veux pas vous dire n'importe quoi. Mais il me semble qu'ils vont être à Québec également le lendemain ou la veille, en tout cas. Vous irez voir ça, les gens de Québec, je pense que vous êtes déjà au courant, les gros amateurs de rock. Et je vous parlais, non pas le lutteur de rock, là, ni les c'est quoi, c'est les poilons là, de rock, en tout cas. Puis je parlais de Outkast tantôt, c'est drôle parce que c'est ça, en 2014, Outkast revenait ensemble. Quelques années avant, on avait vu Big Boys. C'est un souvenir qui est indélébile dans ma tête. Là, c'était au collège Montmorency. Il y avait Big Boy qui était en spectacle au collège Montmorency. Puis avant ça, la première partie, c'était Lord Larry et Just. C'est Riff Tabarachi qui m'avait traîné là. Puis c'est malade, Big Boy à Laval. Puis quelques années plus tard, il faisait justement Oshiaga. Fait que c'est ça. Mais André 3000, que je faisais jouer hier parce qu'il a fait une chanson avec Kamasi Washington, son prochain album à venir au mois de mai, Fearless Movement, a sorti un album complètement instrumental, flûte. Il dit, gars, moi, je voulais pas rapper, faut faire un album de flûte, faites un album de flûte, puis c'est ça. Il fait sa patente, puis je suis content parce que c'est André, il fait pas grand-chose de mauvais depuis Outkast. T'sais, toutes ses collaborations, je dis, on attend ses verses, on attend ses featuring sur plusieurs chansons, il fait pas de mauvaises affaires. Puis là, il fait quelque chose de différent, qui peut être vraiment champ gauche parce que c'est officiellement son premier album solo, mais c'est vraiment pas ce qu'il faisait avant, mais il essaie quelque chose. Fait que moi, je salue l'initiative. Et on a appris aujourd'hui qu'il sera en spectacle dans le cadre du Festival de jazz de Montréal, si ça vous tente. C'est un spectacle qui est payant le dimanche 30 juin à 19h30. Mais là, à 21h30, c'est Freddie Gibbs puis Al Michaels Affair. Ça, c'est un concert gratuit à l'extérieur. Fait que j'espère qu'André, son show, c'est 2 heures et moins parce que ça serait dommage de manquer Freddie Gibbs. Robert Glasper, gratuit le 1er juillet. Il y a Charlotte Day Wilson qui devait être au Metropolis, mais le show est annulé parce que finalement, il sera en concert gratuit extérieur également le mercredi 3 juillet. Puis Dominique Fils-Aimé également le 29 juin. Ça, c'est juste les spectacles que j'ai vus rapidement parce que la programmation complète est sortie tout à l'heure, aujourd'hui même. Ça vous tente d'aller voir ça. Le jazz, c'est cool. Parce qu'il n'invite pas juste que des artistes jazz. Tu sais, Freddie Gibbs, c'est pas jazz, mais ça fait partie de ces artistes-là qui sont dans la grande famille du jazz, on va dire ça comme ça. Fait qu'il y a des gros shows extérieurs à venir au jazz. J'ai hâte de voir ça. Fait que c'est ça, André 3000, il y a 10 ans, ben, je le voyais à Coachella. Puis là, il va être à Montréal. Je pense que les gens vont se garrocher là-dessus. J'espère que ça finira pas comme la fois où Lou Reed était venu à Montréal. Je me rappelle plus quel spectacle il venait faire, mais c'était pas Lou Reed qui venait faire ses gros hits, là, tu sais. C'était un spectacle concept. Je pense qu'il était en duo avec quelqu'un d'autre. Là, j'y vais de mémoire. Puis je me rappelle, j'avais vu la critique dans la presse, puis quelqu'un qui avait crié, tu sais, quand est-ce que tu vas faire Walk on the Wild Side? Il dit, non, t'es pas dans le bon show, mon chum. Fait que André 3000, je pense pas que si, mettons, vous voulez aller voir Aya, c'est pas le concert pour vous, je pense, parce que ça va être... Écoutez son plus récent album, en fait, son seul album solo. Si vous aimez ça, vous allez aimer le spectacle. Si c'est pas pour vous, dépensez pas, parce que je pense que vous allez pas triper. Aujourd'hui, on apprenait en fait que Deux Hommes en Or et Rosalie, ça va continuer. Patrick Lagacé qui va être occupé parce que lui, il va animer maintenant à partir de l'automne prochain. Je dis l'automne, mais tu sais, mois d'août, là, fait que c'est encore l'été. Donc fin août va animer l'émission. Je sais pas si ça va s'appeler Puisqu'il faut se lever ou... Puisqu'il faut se lever maintenant ou le Québec, je sais pas comment ça va s'appeler, mais en tout cas il va faire l'émission du matin au 98.5. Fait qu'il y a quelques contrats qu'il va devoir laisser aller, dont la co-animation de Deux Hommes en Or. Jean-Philippe Vautier reste, et puis c'est Ricardo Larrivée qui va co-animer avec Rosalie, puis Bon Enfant, et Jean-Philippe Vautier, Deux Hommes en Or et Rosalie. Puis c'est drôle, parce que là, à Cube aujourd'hui, t'avais Richard Martineau qui annonce la nouvelle à Benoît Dutrisac. Veut le faire un peu comme, veut le faire pogner les nerfs. Hey, tu sais, tu dis tout le temps que les gens qui animent des shows, c'est pas des animateurs, d'habitude c'est des humoristes, ça va être Ricardo l'arrivée. Qu'est-ce que t'en penses? Puis il n'est pas arrivé vraiment ce que Richard voulait qu'il arrive parce que Benoît Dutrisac avait une anecdote avec Ricardo, puis ça m'a fait sourire, fait j'ai le goût de commencer le show. J'ai dû commencer le show, il est rendu 7h30, il me reste une demi-heure, mais commencez pas l'introduction avec cet extrait-là. On écoute.
Tu vas être content.
Oui.
Parce que des fois, tu te plains en disant comment ça se fait qu'ils donnent des talk shows à des comiques, à des humoristes. Interviewer quelqu'un, c'est une job en soi. Mm. Il faut que tu aies une certaine expertise. Ça peut pas, tu sais, t'as vu le nouvel animateur de Deux Hommes en Or?
Non.
Deux Hommes en Or?
Honnêtement, j'ai pas vu.
Il vient d'annoncer un nouvel animateur.
Non, j'ai pas vu.
Ricardo l'arrivée.
C'est bon. Il est bon. Mais Ricardo, là, il y a quelque chose qu'on connaît pas de Ricardo. Moi, je le sais.
Il y a un petit côté.
Il y avait un, j'avais participé à un pilote pour Radio-Canada il y a 20 ans à peu près, au moins 20 ans. OK? C'était sur les organes. Je ne me souviens plus c'était sur quoi. Puis Ricardo était là. Entre les prises, on était avec lui, puis c'est celui qui m'a fait vraiment beaucoup rire, oui. Mais avec des blagues sales. Sale, épouvantable.
Attends une minute, là. C'était ça, privé,
très
ça.
Drôle.
C'était une conversation privée qu'il a eu avec
sujet,
lui.
Je dis pas à quel sujet.
Mais tu dis qu'il fait des blagues très cochonnes.
Drôle. Il fait des bonnes blagues cochonnes. Il a comme les meilleures blagues cochonnes en ville avec Alain Lefebvre.
Quelque chose que je savais pas. Ricardo, on apprend de plus en plus à le connaître là, depuis son passage à Masterchef Québec. On sait qu'il peut être un peu sassy. Et puis là, ben là, c'est ça. J'ai appris dans la bouche de Benoît Dutrisac aujourd'hui que Alain Lefebvre a des bonnes jokes cochonnes et Ricardo l'arrivée. Je sais pas s'il va lancer un livre Les blagues cochonnes de Ricardo, entre parenthèses, les meilleurs. Moi, c'est une suggestion. Moi, j'achèterais ça, je pense, parce que j'ai acheté quelques livres de Gilles Latulippe. J'en ai acheté un pour mon ami Gérard Filion. C'est meilleure blague à Gilles Latulippe, puis il y en a des très bonnes. Mais bon, Richard Martineau, qui est quand même en 99e position du palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec, et à la 28e émission, Ricardo... À la 28e position, c'est Ricardo l'arrivée. Fait que, bon, je pense que je sais pourquoi ils ont appelé Ricardo pour co-animer Deux Hommes en Or et non pas Richard, parce que, tu sais, 28 versus 99. Mais bon, c'est des palmarès. Hier, c'était l'éclipse, là, je vous apprends rien. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a entendues pendant cette journée-là. Moi, il y a beaucoup de bons que j'ai entendus, c'est-à-dire, j'ai pris des notes là parce que beaucoup de personnes qui nous ont parlé de la science, puis c'est important la science, puis que les écoles devaient rester ouvertes parce que ça aurait pu être une bonne activité scientifique, puis la science est importante, puis la science, puis la science. Mais après ça, ça nous parle du troisième lien. Puis là, on a la science pas si important que ça. Puis les changements climatiques, ouais, mais là, vous savez... Fait que là, en tout cas, la science à géométrie variable. Puis là, j'ai enregistré, parce que moi, à 2h l'après-midi, j'écoutais pas l'émission spéciale de Christian Latreille et de Charles Tissard, qui était quoi, à Radio-Canada, puis RDI. Fait que j'ai enregistré ça, parce que j'étais encore abonné au câble, puis je peux enregistrer la télé. Puis là, moi, je suis venu ici à CSM, j'ai vu l'éclipse avec mes comparses ici de la station. Après ça, j'ai animé. Et quand je suis revenu à la maison en soirée, j'ai rattrapé mes programmes. Et j'ai écouté, en fait, Charles Tissard, qui avait une réelle émotion pendant l'éclipse solaire totale. J'ai juste le goût de le faire jouer, parce que je trouvais ça beau.
Nous sommes dans la totalité. Vivons le moment, Charles.
Wow! C'est extraordinaire! C'est extraordinairement brillant! On la voit tellement bien, l'éclipse! C'est à couper le souffle. C'est émerveillant. C'est une beauté à couper le souffle.
Et après, je pense qu'il y avait des larmes aux yeux parce qu'il parlait, puis il y avait le moton. Fait que j'ai trouvé ça beau. Fait que je voulais vous le faire jouer. Et chose promise, chose due, parce que hier, je disais qu'aujourd'hui, à l'émission, je vous faisais jouer un extrait de 2017. Parce que le 21 août 2017, il y avait une éclipse solaire totale en Amérique du Nord qui traversait les États-Unis de l'Oregon jusqu'à la Caroline du Sud. C'est la première fois en 99 ans que ça arrivait de cette sorte. Et puis, c'était une grosse affaire en 2017. Là, j'écoutais mes amis de Radio X ce matin, là, qui étaient comme... Ils ont tellement parlé parler de l'éclipse ici cette année versus en 72 où il y avait seulement 3 journaux qui ont fait leur une en partie avec l'éclipse solaire totale. Mais ça se passait en Gaspésie, ça se passait en partie à Québec. Mais même en 72, tu sais, les médias étaient quand même assez concentrés. Si ça s'est pas passé à Montréal, c'est peut-être normal que Montréal n'en parle pas. Il y a 50 ans, on avait moins de médias télé, web, et ainsi de suite. Puis plus il y a de gens qui peuvent assister à cette éclipse-là, plus les gens vont parler. Tu sais, je veux dire, c'est 1 plus 1 fait 2 plus 3 plus 4. Je sais pas. Mais bon, il essaie de faire des liens. On a dit qu'on était trop pané sur cette éclipse. Alors moi, je trouvais ça beau. Honnêtement, cette année-là, vous allez les compter sur le bout de vos doigts, ces moments-là de... J'allais dire communion, là, mais je veux pas rendre ça religieux. Mais ces moments-là où on vit quelque chose de beau et on peut être unis devant quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça beau, honnêtement. À la fin, j'étais ici à CSM, tu sais, devant nos locaux, en face du 23-32, Édouard Montpetit, puis quand ça a fini l'éclipse solaire totale, on entendait crier puis applaudir, puis là aussi, il y a un extrait, mais tout ce qui se passait au parc Jean-Drapeau, quand j'ai pu me retaper un peu au début, c'était Charles Dissart, tu sais, qui co-anime avec Christian Latreille, puis en arrière, tu sais, ça a l'air d'être Hillsonic, puis là, tu voyais en duplex, là, dans ce cas-ci, je pense qu'on peut dire duplex, DJ Champion qui faisait un set, puis j'étais comme, on dirait que Charles Tissère, là, tu fais mute, là, puis t'as l'air de voir Charles Tissère qui commente Hillsonic, ça m'a fait sourire. Mais après ça, la grande Diane Dufresne qui est venue interpréter un pot pourri de ses chansons, puis l'éclipse solaire, puis là, les gens ont applaudi, tu sais, puis c'est vrai que ça peut paraître niaiseux applaudir, tu t'applaudis quoi, tu sais, que le soleil se fasse éclipser par la lune, ou, mais tu sais, je trouve ça beau, tu sais, entre applaudir quand l'avion atterrit, puis je trouve ça chien pour le pilote, c'est plus que, hey, bravo, t'as fait ta job, mais applaudir pour ça, je sais pas. C'est un moment que je trouvais beau. Puis j'ai des amis qui ont vu ça dans plusieurs endroits à Montréal. Puis à part que il aurait pu rajouter une coupe de métro de plus parce qu'on dirait que c'est un métro 6 minutes à partir de 2-3 heures, alors que beaucoup de personnes voulaient se rendre dans le centre-ville de Montréal. Moi, j'aurais peut-être rajouté plus de transports en commun. Puis ceux qui ont été poignés dans leur char prochaine fois, ben c'est ça. Et beaucoup de monde qui se déplaçait pour voir ça. Fait que c'était peut-être pas une bonne idée d'être dans une voiture solo hier à Montréal parce qu'il y a eu des bouchons à ne plus finir. Mais tout ce moment-là, moi, j'ai trouvé ça beau. Mais ça m'a rappelé 2017. Parce qu'en 2017, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, tout le monde était ébahi que des scientifiques soient capables de prédire, puis c'est même pas une prédiction, là, c'est pas de l'astrologie, mais avec des calculs scientifiques que je peux pas vous expliquer, là, parce que c'est bien trop complexe, là. Mais ces malades, là, sont capables de savoir qu'en 2079, aux îles de la Madeleine, il va y avoir une éclipse solaire totale. C'est fou, là. Juste penser à ça, t'es comme... C'est plus que de l'algèbre qu'on faisait ou des maths 436, là. Mais ça, on est fasciné de ça puis on remet pas ça en question. Mais Neil deGrasse Tyson, à l'époque, au Daily Show, en 2017, avait justement ce propos-là en disant, on remet pas en question l'éclipse solaire totale puis comment ces calculs-là ont été faits. Mais les changements climatiques, il y a encore des gens qui sont confus quand des scientifiques nous disent que les changements climatiques sont anthropiques. Puis j'ai le goût de vous faire jouer ces deux extraits-là. Donc au Daily Show en 2017, ça c'est, vous faites votre calcul rapidement, c'est il y a 7 ans, parce qu'il y avait une éclipse solaire totale aux États-Unis. Puis quand j'écoute Radio X, plus ça change, plus c'est pareil. Parce que aujourd'hui, ils ont invité Rénal Duberger, ancien prof géologue à la retraite, qui vient nous parler en fait du soleil, puis qui veut nous faire croire que bon, ben c'est l'activité solaire qui est la source du réchauffement. Je dis, mais c'est pas mal du réchauffé ce que M. Duberger nous raconte à Radio X de plus en plus, mais bizarrement, c'est toujours les mêmes qui sont invités à Radio X. Donc Neil deGrasse Tyson en 2017.
Let's talk about your tweet that you sent out about the eclipse.
Okay.
You tweeted, odd, no one is in denial of America's August 21st total solar eclipse like climate change methods and tools of science predicted.
Yeah.
I'm going to ask you this, Neil deGrasse Tyson. Is an eclipse the time to politicize things?
It's not political if one speaks objective truths.
Oh.
I'm just saying.
That's fancy talk for yes.
No, I just thought there's everyone organizing their lives around attending and viewing one of nature's great spectacles. And I don't see people protesting it. I don't see people objecting to it. I don't see people in denial of it. Yet methods and tools of science predict it. So when methods and tools of science predict other things,
right,
to have people turn around and say, I deny what you say, there's something wrong in our world.
Puis c'est ça, la méthode scientifique, c'est pas quelque chose qui va fonctionner quand ça fait ton affaire, puis il y a des gens qui ont un biais de confirmation que je crois à la méthode scientifique quand ça fait mon affaire, puis quand ça fait pas mon affaire, ben too bad, non, c'est pas vrai, parce que moi, je pense que... Un autre extrait toujours de Neil deGrasse Tyson en 2017 par rapport à cette méthode scientifique-là et au changement climatique.
So I come to you and I go, Neil, I do believe in science, I do believe in climate change, but I do not believe that it is man-made. I believe that it's changing. I don't believe that it's the man who's creating it. How do you try and convince
me? I would show you the data that show it, that display it.
And yeah, but those are numbers. It depends on how you read the numbers, Neil.
Yeah, so then you have another study that agrees with it, yet another, and another done in a different country with different people, with competing research groups. And if it all... leans in the same direction, getting even approximately the same result. We are on top of a new emergent scientific truth. And if that's what you want to stand in denial of, fine. In a free country, you have that. You have the freedom to deny whatever you want.
Right.
But if you rise to power and base legislation on something that is not objectively true, that is the beginning of the end of an informed democracy.
Puis, c'est la même chose, oui, la méthode scientifique, oui, les changements climatiques anthropiques, puis il y a comme des petits pas qui sont faits chez certaines personnes. Non, je crois pas au changement climatique. Oui, je crois au changement climatique, mais c'est pas causé par l'homme, c'est le soleil, c'est il y a toujours eu des changements climatiques. Parlez à Maxime Bernier, il va vous parler de CO2. Puis tu sais, de la boîte, là, de la grosse boîte pour pas arriver à l'évidence. Là, certains sont rendus au stade de oui, les changements climatiques sont anthropiques, sont causés par l'homme, mais c'est pas le principal facteur. Ou sinon, oui, c'est causé par l'homme, oui, c'est le principal facteur, mais moi, je vois rien faire présentement. Parce que c'est comme ça. Mais nos enfants, je veux pas leur mettre trop de pression, là, puis c'est drôle. Là, je parle comme si j'étais Jeff Fillion, par exemple, parce que c'est lui que j'ai en tête, parce qu'il y a toujours le même discours. Éric Duhaime aussi avait un peu le même discours. Il parlait toujours, tu sais, de dette générationnelle. Pour ce qui est de l'argent, il ne veut pas mettre une dette générationnelle sur les plus jeunes, mais cette dette climatique-là, il n'y a pas de difficulté à la mettre sur le dos des jeunes, parce que voici leur discours. Présentement, nous, on va rien faire. Mais nos jeunes sont tellement brillants qu'ils vont trouver des solutions qui vont nous sauver le cul. Mais nous, on sera plus là pour nous sauver le cul, mais eux vont sauver le cul eux-mêmes. Comme si c'est toujours le même discours qui arriverait avec... Quand on va être rendu au bord du précipice, les gens vont se réveiller, on va trouver des solutions. Alors qu'on pourrait changer nos habitudes, notre mode de vie maintenant. Mais si on parle de changer notre mode de vie, Catherine Morancy, lorsqu'elle est invitée au 98.5, parlait il y a à peu près un mois de cette subvention qu'on allait retirer par étape, en fait, de la voiture électrique, l'achat d'une voiture électrique. Puis elle dit, tu sais, moi, je suis bien content que ce soit ça parce qu'on ne devrait pas financer la voiture solo, même si elle est électrique. Oui, une voiture électrique peut dépenser moins de gaz à effet de serre qu'une voiture à essence, mais la voiture solo n'est pas la solution. Pourquoi on ne donne pas des subventions aux gens qui prennent le transport commun, qui prennent des déplacements actifs à pied, en vélo, les gens qui font du covoiturage? Ces gens-là contribuent à l'effort d'une société pour réduire leur gaz à effet de serre. La voiture solo n'est pas la solution. Fait que, tu sais, vouloir arriver avec des carottes pour que des gens s'achètent des chars, ça règle pas le problème. Ça règle vraiment pas le problème, même si la voiture est électrique. Puis là, c'est sûr que là, le gouvernement va pas nous parler de ça présentement parce que on injecte beaucoup d'argent dans une usine qui va fabriquer des ultimement des batteries pour des véhicules électriques. C'est le même modèle, là, que le char soit à gaz, qu'il soit électrique. Les bouchons de circulation seront pas réglés. Vous l'avez vu hier, quand on veut déplacer plusieurs personnes en peu de temps, le métro est bien plus efficace que la voiture solo bloquée sur Papineau. C'est l'exemple que je prends tout le temps parce que j'habite sur Papineau. Je vois le trafic aller. J'ai de la peine pour ces gens-là qui sont pris dans le trafic. Ça doit pas être le fun. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, cet argument-là, OK, c'est anthropique, mais c'est les jeunes qui vont s'occuper de ça. Moi, je veux pas changer mes habitudes de vie, et ainsi de suite. Fait qu'on est toujours à la traîne comme ça. Puis là, après ça, on nous parle de... On a signé des accords, qu'on va réduire nos gaz à effet de serre. On se donne des pourcentages qu'on ne respecte pas. Puis à chaque fois, on dit, bon, on l'a pas respecté. Une prochaine fois, on va faire mieux. Ou dans une couple d'années, où on déplace, en fait, l'année pour atteindre des réductions de gaz à effet de serre. On se fait niaiser, tu sais, ultimement, comme fait juste nous dire, on va rien faire, on s'en sac ben raide, arrangez-vous avec vos troubles, puis vous allez voir dans une couple d'années, quand les primes d'assurance, parce que tout va commencer, selon moi, avec les primes d'assurance qui vont monter, ou juste, de plus en plus, c'est ça, là, des gens qui sont localisés à certains endroits où les changements climatiques vont frapper fort, ben, des compagnies d'assurance qui disent bon, « on vous assure plus, vous aimez votre maison, bonne chance pour la revendre, parce qu'une maison qui n'est pas assurable, ça va être difficile à revendre ». Il y a des gens qui vont se dire, ben là, pourquoi le gouvernement fait rien pour nous? Ben, parce qu'à l'époque, quand il y a des gens qui se sont levés pour qu'on fasse de quoi? Des gens qui critiquaient la science et la méthode scientifique qui nous disaient que les changements climatiques étaient anthropiques. Et là, je vois des choses que je ne pensais pas voir, je dirais pas de mon vivant, mais je ne pensais pas voir il y a quelques années. Je vais vous parler de Yann et Frank. Yann Sénéchal et Frank le Dédomiseur, qui étaient deux chroniqueurs à l'émission de Jeff Fillion lorsqu'il était à Radio X. Là, maintenant, il fait son balado sur le web. Ils vont quand même le voir sur le web une fois de temps en temps. Frank qui collabore encore à l'émission de Dominique Moret. Ils ont également un balado sur le web. Et puis, ils ont reçu Sylvain Charlebois. Sylvain Charlebois, qui est économiste, qu'on entend à toutes les sauces dès qu'on parle d'agriculture, qu'on parle d'épicerie, d'alimentation. C'est le spécialiste qui est invité partout. Moi, j'ai pas de problème avec Sylvain Charlebois, plus que c'est juste lui qu'on entend. Ça, je trouve ça bizarre. Parce que je me dis, un sujet qui est si important, on pourrait avoir d'autres sources. Tu sais, on nous dit souvent de diversifier nos sources d'information. Ce serait fun de diversifier également nos professeurs et nos scientifiques sur certains enjeux. Parce que sinon, on a tout le temps l'air d'entendre la même personne. Puis M. Charlebois a énormément de tribunes. Le Journal de Montréal, la presse, il est invité très souvent à la télévision également. Dès qu'on parle d'épicerie, dès qu'on parle d'alimentation, il est à l'Université Dalhousie Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et puis là, il est interviewé dans le cadre du balado Yann et Frank. Et là, j'ai écouté en fait la balado du 3 avril, où justement, Frank, le dédomiseur, parce que c'est ça son surnom, disait ceci.
Là, faut dire un affaire, il y a des gens qui vont devoir s'endurcir le cuir idéologique. Hey, tu sais, là, comment je dirais ça? Quand on reçoit des gens en entrevue, là, pourquoi il y a toujours des personnes qui écrivent en commentaire « Ah, 2 minutes 45, il a dit ça, moi, c'est fini. » Tu sais, pour vrai... on vous l'a dit plusieurs fois, c'est pas une secte, là, Yann et Frank, là. Tu sais, moi, j'ai pas envie que du monde vienne chez nous, comme dans le temps, chez le gars d'Harmonium, à se camper, il y en avait de la maison, et être un gourou d'une secte, là. Tu sais, il y a des gens qui vont venir au fil du temps, ça implique. Écoutez, si on invite rien que des gens qui pensent comme nous autres, là, il y en aura pas d'invités. Parce que des Yann pis des Frank, il y en a rien que deux.
Puis là, je me demandais, mais qu'est-ce que Sylvain Charlebois a dit de si terrible? J'étais allé écouter justement cet extrait-là.
En fait, le marché du carbone, c'est un concept, je pense, qui est mal compris par plusieurs personnes. Je pense qu'il est important de faire quelque chose. Les changements climatiques sont une menace réelle, surtout pour la filière agroalimentaire. Alors, de rien faire, à mon avis, ça serait une erreur.
Fait que t'as un podcast, et puis là, les gens sont fâchés que Sylvain Charlebois a dit ça, qui, scientifiquement parlant, est une évidence maintenant, là. Puis ça, il y a des gens qui disent, moi, je l'arrête de vous écouter à... un peu comme Roxane Labanane quand elle a invité Martin Petit dans son podcast, des gens qui la suivaient depuis longtemps. On aime beaucoup ton humour, mais là, t'as été trop loin parce que tu veux parler avec quelqu'un qui justement a ri des gens qui voulaient pas se faire vacciner pendant la pandémie, puis ainsi de suite. Fait que des gens qui ont beaucoup de ressentiment dans le sang par rapport à Martin Petit. Ils disaient, moi, je vais arrêter de suivre quelqu'un complètement parce que vous invitez cette personne-là. Là, il y a Yann et Frank qui étaient comme fâchés contre certains de leurs auditeurs et auditrices parce que Sylvain Charlebois a dit ceci. Voici ce que Yann Sénéchal disait justement à ce sujet.
C'est sûr qu'il n'y aura pas notre discours. Si on voulait qu'il y ait notre discours, genre, je ne l'inviterais pas, puis je dirais exactement ce que je voudrais dire sur ces sujets-là. Je préfère avoir quelqu'un de nuancé qui parle à plein d'intervenants dans le milieu, puis qu'il apporte une vision peut-être un peu différente. Pas tout, mais ça, on a dit, c'est quoi, le monde accroché parce qu'il a dit quoi? Ah, les changements climatiques, c'est un vrai problème. Il y a un bug là, avec ça.
Je suis vraiment content d'entendre ça parce que je vous le dis, Yann Sénéchal qui a collaboré nombre d'années maintenant au podcast de Jeff Fillion, mais à l'époque à Radio X, puis Radio X avait un argumentaire de les changements climatiques, qu'est-ce que ça donne, puis c'est pas vraiment l'homme, puis on va interviewer des pseudo-scientifiques qui n'ont pas étudié le climat, mais eux qui ont une opinion très claire sur le fait que c'est le soleil! Puis là, après ça, il a dit ceci, ça m'a fait sourire.
Moi, je te dirais ça. Changement climatique, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère? Oui. Est-ce que les températures changent? Oui. Est-ce que c'est un problème? C'est là que ça commence à bugger. Là. C'est un gros problème, un petit problème, un moyen problème. C'est là que ça peut commencer à argumenter. Est-ce que c'est entièrement causé par l'homme? On peut commencer à argumenter.
Bon, ouais, là, finalement, j'ai déchanté un peu quand il a commencé à dire ça. T'es comme... Mais si, ouais, en tout cas. Fait que, il y a encore des gens qui sont rendus à l'étape de, tu sais, c'est causé par l'homme. On arrive de loin avec certaines personnes. Je dis pas que les gens vont voir la lumière un jour, mais c'est parce que, tu sais, c'est ça. Pour comprendre la méthode scientifique, faut avoir des bases en science. Puis ces bases-là, ben, peuvent s'acquérir à l'école. Mais, comment je vous dirais bien ça? On parlait des États-Unis il y a quelques années, puis nous, on se bombait le torse en disant dans certains États des States, là, ça veut parler du dessin intelligent, puis mettre ça sur le même pied d'égalité que l'évolution de Darwin. T'sais, le dessin intelligent, là, c'était une manière de nous parler de la Bible, puis que Adam et Ève, puis que la pomme, puis ainsi de suite, là, qu'on vient de Dieu, puis non, c'est pas vrai qu'on descend du singe. Comme, c'est pas qu'on descend du singe. Juste là, la nuance, là, si quelqu'un vous dit, ouais, l'homme descend pas du singe, non, l'homme descend pas du singe. On a un ancêtre commun. Ça, c'est une méthode scientifique, c'est d'avoir des termes plus précis, d'avoir des nuances, d'avoir des termes qu'on apprend à l'école, tu sais. Mais on se disait, bon, ben, aux States, il y a certains États qui, justement, là, tranquillement pas vite, régresse avec justement la science, mais nous, ça nous arrivera pas au Canada. Mais parce qu'il y a des gens qui sont très religieux, puis peu importe la religion, on voit que justement, il y a des gens qui sont très religieux, peu importe la religion, qui veulent rien savoir de la science. Certaines écoles privées religieuses qui sont quand même subventionnées par le gouvernement se rendent compte qu'il y a plusieurs cours. Là, je pense qu'il y avait des écoles juives assidiques à Montréal, par exemple, où plusieurs cours de science étaient un peu gommés, pour justement donner encore plus de possibilités d'avoir de cours de religion, puis que le gouvernement marche pas mal sur des œufs présentement pour intervenir. Parce que, oh, c'est litigieux, puis on veut pas trop intervenir. Mais c'est ça, on se rend compte qu'en Occident, de plus en plus, il y a un discours qui est contre la science pour se baser sur un ressenti. Mais ces mêmes personnes-là nous disent, non, le ressenti, ça vient des woke, ça vient pas de nous, les anti-woke. En tout cas, pas le temps de parler de ça, parce que je vais encore chialer. Yann Sénéchal avait été interviewé à Cube, comme Roxane Labanade, des gens qui étaient vraiment fâchés qu'ils aillent à TVA, parce que TVA, c'est québécois, c'est le mal, puis eux veulent faire leurs propres affaires. Mais il y a des gens qui ont compris que non, moi, je vais être invité à l'émission de Mathieu Bock-Côté à Cube, parce que je l'ai invité aussi, puis là, on va pouvoir faire avancer nos idées, parce qu'eux aussi, ils ont un agenda caché, mais pas vraiment caché. Dire pourquoi je veux aller à l'émission de Mathieu Bock-Côté? Oui, c'est pas juste pour argumenter avec des gens qui pensent pas comme moi, mais pour faire avancer mes idées. Et Yann Sénéchal le disait, toujours un extrait de leur balado de Yann et Frank du 3 avril dernier.
À un moment donné aussi, en dehors de tous les constats objectifs qu'on peut faire ou des débats qu'on peut faire, la réalité, c'est que si tu veux que tes idées progressent, les gens avec qui tu as des accointances, pas sur tous les sujets, mais sur plusieurs sujets, tu as intérêt à entretenir des liens avec eux autres plutôt que de les envoyer chier ou de les bypasser. Tu sais... Il y a du mal, tu sais, c'est parce qu'il y a des gens qui sont comme jamais contents de rien. Tu sais, d'un côté, ils se plaignent que nos idées ont pas de traction dans des médias mainstream ou quoi que ce soit, mais en même temps, il n'y aurait pas fallu que tu ailles parler avec Bock-Côté. Mais la manée Bock-Côté, c'est parce que Christian, mettons qu'il y a 50% du discours avec lequel on est d'accord. On peut-tu tabler sur ce 50%-là? Puis établir des ponts ou faut se cracher dans la face jusqu'à la fin des temps?
Ben, regarde, dans le débat qu'on a fait un matin un peu, y a-tu quelqu'un qui a perdu quelque chose? Hein? Il vous manque-tu des dents dans la bouche? Y a-tu quelqu'un de mort?
C'est ça, y a-tu quelqu'un de mort?
Ah, c'est ça. Arrêtez, là.
Ah, oh, ouais, ben non, c'est ça.
Ah, c'est déjà le truc, calme. Puis, il est pas côté, caribou. Puis, il y en a un qui veut nous parler, Calvas. On va y parler, là. Simonac, ça fait changement du monde qui veut nous parler.
On dirait que Yann Sénéchal imitait Guillaume Wagner quand lui, il imitait en fait des gens qui écoutaient le Radio X à l'époque. Mais je suis content de leur ouverture parce que, je vous le dis, ils ont participé à des émissions qui étaient très clivantes, qui semaient la division depuis nombre d'années. Puis là, commence à se rendre compte que, ben, des fois, oui, il faut se parler. Puis même si on n'a pas les mêmes idées, on peut être un peu plus respectueux. Est-ce qu'ils pensent vraiment ça ou c'est peut-être que ça les aide aussi d'aller sur des tribunes qui sont plus écoutées? Quoique, je pense, j'ai l'impression que le balado d'Yann et Frank est plus écouté que Cube, là. Ça je pense qu'il y a juste moi, Paul Viniquet, qui écoute ça sur YouTube. Il y a quelques personnes qui l'écoutent, là, mais disons que je pense que leur balado est un petit peu plus écouté. Mais eux, leur but, c'est ça, c'est d'aller dans des tribunes de plus en plus écoutées pour justement répandre leurs idéologies et leurs messages. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, ça ne me dérange pas des ententes. C'est juste que des fois, pour les avoir écoutés depuis nombre d'années, des fois, ça faisait un peu dur ce qu'ils avaient à dire parce que ça manquait de nuances. Là, je les sentais plus nuancés là-dessus. J'espère que c'est une trame qu'ils vont garder à l'avenir. C'est presque tout pour l'émission. J'avais d'autres choses à vous parler, mais gars, ça ira à la semaine prochaine. De toute façon, Paul Saint-Pierre Plamondon a le temps d'avoir encore trois articles qui déforment un peu ce qu'il a dit. Parce que moi, ça fait trois semaines que j'écoute je lis des articles sur Mathieu Bocoté. Pardon, sur Paul Saint-Pierre Plamondon, pas que je mélange les deux, là, mais à propos du troisième lien, puis je dis bon, mais PSPP backtrack sur le troisième lien, puis là, je lis le gros titre, puis je dis, moi, je suis fâché, puis là, je vais écouter la conférence de presse, je dis, moi, c'est pas vraiment ce qu'il a dit. Il était plus nuancé dans la conférence de presse, mais tranquillement, pas vite, on dirait qu'il met le fardeau sur la Caisse de dépôt. Si la Caisse de dépôt dit que ça prend des chars sur un troisième lien potentiel à Québec, là, ils vont peut-être changer leur position en 2026, ou est-ce que c'est parce que c'est le pouvoir qui cogne à la porte tranquillement, pas vite, d'un gouvernement majoritaire dans deux ans, fait qu'ils se disent, si on veut garder Québec, on va leur promettre, nous aussi, un troisième lien. Si c'est ça, pour vrai, arrêtez de niaiser les gens de Québec, parce que je me sens mal pour eux. Moi, je suis contre un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Mais c'est moi, tu sais. Mais les gens de Québec qui y croient dur comme fer, puis qui veulent avoir ça, moi, je me sens mal pour eux, puis on dirait qu'à chaque élection, ils se font niaiser, ils se font promettre de quoi, puis après ça, non, finalement, c'est pas ça. Quand moi, je veux avoir une modification du mode de scrutin, puis je me fais promettre ça, puis j'y crois au fédéral, puis après ça, j'y crois au provincial, puis je me fais trahir, puis je me dis, bon, je me sens encore fait avoir. Je me sens comme quelqu'un de Québec qui va avoir un troisième lien, puis je sais que c'est pas un sentiment qui est le fun. Donc, je pense à vous. Je vous dis, j'en parlerai la semaine prochaine. Deux annonces par rapport à l'Université de Montréal. Demain, si vous avez un peu de temps sur Zoom, il va y avoir l'Assemblée générale extraordinaire de CISM 9 avril. Donc ça, c'est 10 avril, c'est demain, à 11h45. Le lien Zoom pour assister à cette Assemblée générale extraordinaire est sur le site de CISM, cism893.ca, pour changer une modification au règlement généraux de la station, parce que c'est ça, présentement, il y a un référendum sur le campus, puis il n'y a pas de questions pour CISM, puis nous, ça fait 10 ans qu'on n'a pas de questions pour modifier notre cotisation étudiante, puis si on fait rien dans une couple d'années, pour avoir vu les finances il y a quelques années, j'ai peur pour l'avenir de la station. Fait que je veux pas faire peur à personne, mais ça serait le fun qu'on, peut-être, les étudiants, les étudiantes se disent, ben, si on veut bien financer notre station, qui est CISM, le 89,3 FM, la radio des étudiantes et étudiants de l'Université de Montréal, faudrait peut-être faire quelque chose là-dessus. Fait que demain, ça vous tente de vous prononcer sur cet enjeu. Mercredi 10 avril, 11h45, le lien sur le site de la station. Et également, CISM sera présent sur le campus le 11 avril au Café La Brunante, parce qu'il va y avoir une pause musicale. Je pense qu'il va y en avoir quelques-unes, cette année, à différents endroits de l'Université de Montréal. Vous verrez, les publicités vont être sur le site. Mais la prochaine, c'est le 11 avril. C'est Vanille qui va être en spectacle au Café La Brunante, qui est à Jean-Briand, au deuxième étage. Ça vous tente de voir un spectacle. Ça va être à midi au Café La Brunante, Vanille. Donc, c'est presque tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse au bon soin de London Café. J'ai le goût de vous laisser avec... j'ai des poupourris. Je vais vous faire jouer des extraits. Un truc qui me fait sourire, en fait, c'est Céline Galipeau qui était en entrevue, en fait, faisait comme une espèce de petit reportage sur les 70 ans du téléjournal à la radio de Radio-Canada.
Regardons Laurent Daud qui arrive. Écoute.
Ah oh ben!
Toi.
Juste d'entendre Céline Galipeau dire « Ah oh ben, ça a fait ma semaine, on l'écoute. »
Ah oh ben!
Toi.
Je vous laisse avec un extrait, en fait, de Jonathan Trudeau, le 14 mars dernier, nous parlait, en fait, de, puis ça c'est drôle, c'est une anecdote que je trouve savoureuse, d'Éric Girard, et surtout d'Éric Girard et de sa mère. Ça, c'est le genre d'anecdote que je trouve merveilleux, parce que peu importe notre fonction dans notre vie, même si vous êtes ministre des Finances, ça se peut que votre mère soit pas fière de vous, puis qu'elle vous appelle, parce que c'est ça. Jonathan Trudeau qui parlait de ça le 14 mars dernier à l'émission de Paul Arcand. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.
À parler avec des gens qui le connaissent bien, on m'a expliqué entre autres pourquoi on le voit toujours comme ça, très respectueux, très très calme, Éric Girard. Imagine-toi donc qu'au cours du premier mandat, dans une période de questions un peu animée, semble-t-il qu'il avait levé le ton envers un adversaire politique, avait été un peu baveux si on veut, puis après la période de questions, sa mère l'a appelé. Pour dire, là, mon garçon, tu vas être respectueux avec tes adversaires politiques. C'est pas comme ça que je t'ai élevé.
Une mère, c'est toujours important.
Ben voilà, et on me disait que M. Girard a toujours ça en tête.
Ah ben!
Et toi?
On se fait carrément brainwasher, ça n'a pas de sens pour vrai.
Présenté les 17 et 18 avril à la salle Claude Champagne et le 19 avril à la salle Arosa, les soirées ultrasons de la Faculté de musique de l'Université de Montréal sont consacrées à la découverte en création numérique et contemporaine. Venez applaudir les œuvres originales de la relève en multimédia de Montréal et découvrez des créations multiformes dans un environnement immersif. Musique acousmatique, installation, performance, vidéo-musique et plus encore. Laissez-vous surprendre par une programmation éclatée et innovante. Pour tous les détails, visitez musique.umontréal.ca.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.